Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant que, en effet, les esprits mauvais existent. Nous sommes à l'étude numéro 9, deuxième partie, puisque cette partie-là était beaucoup trop longue pour la faire en une seule fois. Alors donc, ceci, c'est la continuité de l'étude de hier. Deuxième partie. Le révérend Ige K. Funk de New York, ministre luthérien très connu, a eu quelques expériences saisissantes avec des esprits et les a publiées au monde, affirmant cependant que même des spiritualistes admettront que certaines des soi-disant manifestations sont des tromperies, que d'autres proviennent d'esprits trompeurs ou menteurs. C'est dommage que les serviteurs de Dieu éminents touchent à ces choses-là, mais je n'ai pas le droit de juger aucun d'entre eux. Certainement, ils nous apportent des informations que nous n'aurions pas, évidemment, sans qu'ils aient passé, entre guillemets, par là. Alors, ces investigations, comme celle du professeur Hislop, montrent la tendance de notre époque et donne un signe de ce que nous pouvons attendre lorsque bientôt le monde entier se tournera vers l'examen du spiritisme comme étant la seule preuve que les morts ne sont pas morts. Discutant ce soir de la science physique, psychique, dans un discours devant l'Institut américain des recherches scientifiques, à la maison de C. Griswold Bourne, le révérend R. Heber Newton, affirma que les esprits des morts communiquent avec les vivants, que la télépathie est un pouvoir possédé par beaucoup d'hommes et de femmes, et que la clairvoyance est un fait scientifique établi. Il déclara en partie « La clairvoyance, c'est maintenant un pouvoir reconnu de certaines organisations. » Molly Franker de Brooklyn s'est prouvé plus fort que l'incrédulité de nos savants. La croyance dans l'existence d'esprits invisibles et dans leur pouvoir de communication avec nous dans la chair est une des croyances les plus vieilles, les plus répandues et les plus intenses des hommes, et elle s'est ranimée étrangement de nos jours. Et je ajoute malheureusement. Une dame qui avait été spirite nous raconte comment elle développa l'oreille clairaudiente ou le pouvoir d'entendre les esprits quand les autres n'entendent absolument rien. Et à propos, tous devraient éviter toute chose de cette sorte comme ils éviteraient un fléau. S'ils sont abordés ainsi, ils devraient immédiatement tourner leur cœur vers le Seigneur dans la prière afin d'obtenir l'aide pour résister à l'intrusion. Et ça, c'est vrai. Les proches de cette dame étaient intéressés depuis quelques années à la vérité présente et lui avaient montré que ces communications n'avaient pas lieu avec des amis morts, mais avec les anges déchus. Donc avec des démons, et finalement l'ont amené au point de lire les études dans les Saintes Écritures. Ceci a déplu, bien entendu, aux esprits, qui pour un temps l'ont empêché presque d'étudier par une opposition incessante telle que « ne lis surtout pas cela, car ce n'est pas vrai », etc. Et elle affirma donc graduellement que sa volonté, appelons le Seigneur à son secours. Et nous avons entendu dire que maintenant, heureusement, elle est tout à fait libérée de leur intrusion. C'est, voyez-vous, donc, il a fallu quand même qu'elle appelle au secours, en quelque sorte. Un autre cas porté à notre attention fut celui dans l'est de la Pennsylvanie, d'un garçon de 19 ans qui était terriblement opprimé par des démons. Un membre du peuple du Seigneur, entendant parler de ce cas, demanda à le voir en prenant avec lui un exemplaire de la brochure sur les dangers du spiritisme. Or, la présence de cette dernière irrita le garçon à un tel point qu'il fallut la faire disparaître, cette brochure, avant que le frère ait pu parler au possédé. Voyez-vous, les esprits, l'ayant sous leur contrôle, le rendirent presque furieux jusqu'à ce que la brochure a été enlevée totalement. Voyez-vous, les ténèbres, ils haïssent la lumière, ça c'est un fait, et nous ne doutons pas que ces mauvais esprits nuiraient aux serviteurs de la vérité, si cela leur était permis. Ils sont évidemment sous quelques contraintes touchant le peuple du Seigneur. Plus tard, ils peuvent être autorisés à opérer au moyen d'autres, de même que Satan entra en Judas avant la trahison. L'extrait suivant, qui est tiré de The Prophetic News, une revue échangée, peut servir pour souligner davantage encore la déclaration précédente. « Je fus, est-il dit, je fus poussé à abandonner ma main afin qu'elle soit dirigée par un esprit à la suite d'une explication que Mr. Stead écrivait dans Review of Reviews au sujet des écrits spirites. Ce fut le premier pas accompli sur ce chemin défendu et cependant très fascinant. Je me rappelle ce premier pas et je me souviens que je n'ai jamais, dans la perplexité qui remplissait mon esprit, fait une prière à Dieu. J'aurais dû chercher tout de suite la direction de Dieu avant que j'aie eu pensé à vouloir le faire. Eh bien, je fus saisi du désir de chercher cette source d'aide nouvellement trouvée. Et je crains beaucoup de n'être pas le seul à être follement égaré, carrément égaré par la lecture de littérature spiritualiste qui circule maintenant un peu partout. L'esprit qui est venu et qui m'a offert son aide, m'a totalement défendu de prier Dieu, alléguant comme raison que j'étais maintenant sous une direction céleste spéciale, remplaçant de loin le besoin de la prière et que mon héritage céleste était assuré. C'était un conseil étrange, et ce qui fut plus étrange encore, c'est que un seul instant, j'ai pu le prendre au sérieux, et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Voyez-vous, il donc que cette personne n'était pas très sûre que c'était bien mais elle a fait taire cette voix interne qui voulait lui faire comprendre que c'était mal. Et donc, malgré cela, malheureusement, cette personne a continué. Et ces messagers de Satan lui ont interdit l'étude des Saintes Écritures, car, dit cette personne, j'en avais commencé récemment une lecture méthodique, et la raison que me fournit pour cela mon mauvais conseiller était que ce travail était si urgent, leur travail à eux, bien entendu, qu'aucun moment ne pouvait désormais en être prélevé pour une autre occupation mentale. Ils sont très rusés et malins, ces esprits mauvais. Donc, sous le prétexte de m'aider, j'étais maintenant interviewé par d'autres esprits qui déclaraient eux-mêmes être les esprits de mortels décédés. Et l'un d'eux se revêtit du caractère de ce que je peux appeler de l'ultra-pitié et m'a prévenu de ne pas entrer en association avec ni sous l'influence d'un certain pasteur de l'Évangile résidant dans le voisinage, quelqu'un qui m'aurait certainement, et même je sais que c'est vrai, m'aurait conseillé avec sagesse dans mon état perplexe. Mais, voyez-vous, mon intervieweur proféra contre lui des basses calomnies. Et cet esprit m'entrava beaucoup en faisant de longs discours. Alors, un autre esprit déclara lui-même avoir été autrefois ambassadeur anglais à la nation de ces chrétiens persécutés dont la condition douloureuse faisait, on peut dire, saigner mon cœur. Et dans un langage convenant à un homme d'État, il relata son expérience remarquable dans son office d'ambassadeur. Il désira que mon travail prît une forme que je trouvais par la suite comme étant la pire sous les circonstances et que je devais communiquer cela à un fonctionnaire public important. C'était tellement opposé à mon jugement que je ne pus lui donner mon assentiment. Après ceci, le premier esprit qui vint à moi, sous les manières d'un ange gardien, déclara que l'esprit de ma mère bien-aimée avait été autorisé à me visiter pour quelques minutes et qu'elle me suppliait de transmettre un message à un parent demeurant au loin et que, quoique je fusse ignorant de la portée de ce message, elle guiderait ma plume en écrivant. Je pris donc la plume dans ma main, la tenant mollement, afin qu'elle puisse la guider. Je fus pris d'un vif désir de voir la forme de ma mère. Alors, à mon grand étonnement, son portrait fut tracé instantanément et avec habileté consommé sur le papier, se trouvant ici devant moi. Et je guettais alors avec un intérêt profond l'inscription du message. Il fut tracé de son écriture bien connue de moi. Trois mots seulement furent écrits, mais ils furent écrits trois fois. Les mots écrits avec une hâte tremblante et avec insistance étaient « Sauver des âmes » et avec un mouvement rapide, la plume fut abaissée. Voyez-vous, les esprits mauvais peuvent nous induire en erreur avec des semblants de vérité biblique. Un tel message venant d'une telle source frappa donc mon cœur d'une profonde solennité, mais je ne pouvais me résoudre à envoyer ce message. Je sentais que ce serait mal de l'envoyer. Le parent à qui il était destiné était déjà engagé dans un travail de mission chrétienne, et je ne savais comment éviter d'amener à son esprit l'influence d'un message venant je ne savais trop d'où. J'éprouvais donc une aversion totale pour toute nouvelle communication des esprits et je décidai de n'en plus recevoir d'une source aussi douteuse. Mais, voyez-vous, je ne devais pas aussi facilement me dépêtrer de ce filet dans lequel, dans un mauvais moment, j'avais délibérément mis les pieds. Donc, de dégoût, et comme pour me ruer hors du tourbillon dans lequel j'avais été aussi furtivement attiré, je jetai dans le feu le portrait de ma mère et tous les écrits spirites. Je ne voulais pas croire que l'esprit de cette chair chrétienne, qui était ma mère, vagabondait sur cette terre en compagnie d'autres qui me donnaient des conseils aussi désastreux et avaient manqué à leur promesse de me faire, ou plutôt de me fortifier, et surtout de m'aider. Et j'en suis venu même à la conclusion que ces esprits avaient tenté une personnification de cette sainte défunte et avaient écrit ce message solennel en vue de m'induire à croire en leur caractère céleste, entre guillemets, et en la sainteté de leur intention, et cela afin que je puisse être amené à suivre leur dangereuse injonction. Pour justifier leur procédé, ils étaient aptes à citer les saintes écritures de travers. Il y avait un terrible mystère en ceci, et il me remplit de pressentiments affreux. Je me dis alors à mi-voix, est-ce vraiment possible qu'il y ait de mauvais esprits ayant le pouvoir de communiquer avec les mortels et surtout de les tromper? Et là, voilà qu'un esprit répond. Cet esprit me répondit oui et ajouta que désormais eux-mêmes agiraient mal envers moi et que j'étais en leur pouvoir pour être puni puisque j'avais cherché à obtenir la connaissance défendue aux mortels. Avec cette déclaration effrayante, ils changèrent donc leur caractère et leur conduite envers moi. Je croyais désormais que j'avais commis un péché en les consultant, mais il avait été fait dans l'ignorance. C'était une ignorance coupable, néanmoins, je suis d'accord, et avec une intention innocente. Je pouvais sûrement me confier dans la miséricorde divine pour me faire pardonner. Mais l'esprit répondit à ma pensée en déclarant que le pardon divin ne pouvait s'exercer pour moi, mais qu'il m'accuserait devant l'ange rapporteur de ce péché mortel, communication avec des esprits, et qu'il provoquerait un jugement immédiat. Pas dans 15 jours, mais tout de suite. Rappelons que ces mêmes esprits, par leur tromperie mensongère, m'avaient induit à cesser de prier et d'étudier les saintes écritures et avaient même déclaré que mon héritage céleste était assuré Ils me quittèrent donc pour exécuter leurs menaces. Peu après ceci, une version remarquable apparut par les moyens permis de ces tourmenteurs. Une nuit, le mur à l'extrémité de ma chambre sembla disparaître et un vaste espace ouvert apparut. D'un côté était un dais avec un marchepied qui paraissait conduire à un trône élevé, à moitié caché par des nuages. Devant le dais, un grand nombre d'êtres célestes se tenaient en demi-cercle, et séparés du reste, au pied de ce dais, était une forme terrible. Je vis que c'était le prince des ténèbres, et je sentis instinctivement qu'il était là, comme mon accusateur, et il sembla que je n'avais pas d'avocat. Cette vision terrible parut tout d'abord une confirmation de la menace de l'esprit. Cependant, il y avait une différence essentielle. Ce n'était pas, comme il le disait, un ange vengeur, mais c'était Satan qui m'accusait. Je désirais réfléchir sur cette vision et sur les nouvelles conditions m'environnant, mais des voix d'esprit m'interrompaient continuellement afin que je ne puisse ni penser ni prier, mais seulement me répéter quelques mots tels que « Ô Seigneur, en toi je me suis confié, ne me laisse jamais confondu ». Je ne pouvais arrêter leur communication verbale. Leur voix petite mais intensément claire me suivait absolument partout. Ces esprits m'apprirent que les tourments de l'enfer, auxquels je n'avais pas cru, m'attendaient et que dans les feux intenses de la terre, les âmes étaient tourmentées et que l'intensité du châtiment était proportionnée à la culpabilité de l'offenseur. Ils affirmèrent que je connaîtrais par expérience la réalité du châtiment éternel cette nuit même. Le fait que j'étais encore dans la chair mortelle ne les gênait pas. Il paraissait y avoir quelque vérité dans leurs menaces, qu'ils pouvaient provoquer la mort, ou plutôt la cessation de l'existence mortelle, car ils me donnèrent une démonstration immédiate et frappante de leur pouvoir en provoquant des palpitations et des spasmes violents du cœur, tandis que j'étais tout à fait calme d'esprit. Vraiment, mon calme imperturbable leur fit faire la remarque que j'étais l'un des plus braves des mortels, mais qu'ils me vaincraient cependant avec des terreurs encore plus grandes. Mais je trouvais en définitive qu'il ne possédait pas de pouvoir suprême en plus du roi des terreurs. Ils me quittèrent alors, et dans les ténèbres et le silence de la nuit, je restai dans l'attente, croyant qu'une épreuve terrible me guettait, car je savais que mes ennemis étaient puissants et très méchants. Alors le mur de ma chambre sembla à nouveau disparaître, et je fus conscient qu'un esprit était entré et me touchait, et une voix déclara que celui qui était entré était un administrateur de la justice dans les régions infernales. Il me demanda si je savais pourquoi il avait été mandé vers moi. Je répondis que je savais seulement que mes ennemis m'accusaient et que s'il était le serviteur de Dieu, je désirais qu'il m'apprenne quelle était la volonté de Dieu et je devrais faire maintenant, car je désirais seulement connaître et faire cette volonté et pas une autre. » Il répondit en quelques mots tels que ceux-ci : « Vous êtes libre, vous ne pouvez tomber sous ma juridiction. Je punis seulement ceux qui n'obéissent pas à Dieu et maintenant je vous quitte. » Je ne pus exprimer la reconnaissance que j'avais d'être délivré, enfin, d'un péril aussi imminent et de ce qu'un esprit puissant avait reconnu, que le pouvoir divin gouvernait en enfer également et que lui était subordonné dans ses actes. Toutes ces manifestations spirituelles étaient loin d'être la fantasmagorie d'un rêve ou de l'imagination. Elles appartenaient évidemment trop aux réalités rigoureuses et constantes de la vie. Elles étaient les manifestations de ce grand et puissant et éternel royaume du pouvoir spirituel que la vision mortelle ne peut encore apercevoir. À travers cette épreuve, j'étais calme et je possédais cette intensification de conscience qui est élevée par des circonstances tragiques. J'analysais que puisque je n'avais pas affronté ces conditions uniques et tragiques à cause de besoins ou de buts personnels, le résultat de cette expérience devait avoir également un champ d'influence encore plus grand. Je devais donc apprendre et souffrir davantage encore. Je devais même apprendre que ma délivrance du pouvoir des démons, comme ma foi, était d'un caractère imparfait. Je passais le reste de la nuit en paix. Dans la matinée, je recommençais l'étude des Saintes Écritures et elle devint pour moi l'occupation maintenant la plus importante de ma vie. Mais à mon grand désespoir, les mauvais esprits sont revenus immédiatement avec des interruptions incessante pour empêcher mon étude des Saintes Écritures. Ils étaient donc décidés à m'empêcher de connaître une délivrance complète. Ils me forcèrent à écouter le récit d'une insurrection sur la terre contre le pouvoir divin, insurrection qu'ils complotaient depuis longtemps, mais qui sous peu devait entrer en exécution. Ils affirmèrent que leur puissant potentat et chef avait obtenu la vice-chérance de la terre, qu'il était le prince de ce monde, qu'il soumettait comme il n'avait encore jamais été soumis à son contrôle et qu'il provoquerait une tempête de persécution contre tous les disciples de Christ. En fait, ce devait être une nouvelle poussée de l'influence infernale sur la terre. Je fus donc obligé d'écouter ces esprits me dévoiler leur complot diabolique. Ils avancèrent de nombreuses preuves pour soutenir le fait que leur pouvoir sur la terre était déjà grandement accru et continuer à s'accroître. Les perspectives, par conséquent, qui semblaient s'accumuler pour le monde, m'accablèrent de consternation, et on le comprend. Ils affirmaient que leur grand potentat, le dieu de ce monde, Satan, avait si subverti la chrétienté que au moins les grands systèmes ecclésiastiques comme tels que les églises romaines, grecques et anglicanes lui seraient entièrement subordonnés. J'étais enclin à ne pas croire leur déclaration. Je désirais qu'ils puissent être contredits, mais les faits paraissaient les corroborer. J'observai alors, pour la première fois, que l'Église de Rome était en train d'obtenir un grand pouvoir, et quant à l'Église grecque en Russie, elle infligeait alors des persécutions terribles aux véritables disciples de Christ, des chrétiens qui ne voulaient pas pratiquer l'idolâtrie. Il m'apparaissait maintenant, en effet, comme très dangereux, que ces esprits qui avaient hypocritement offert leur aide aux chrétiens persécutés avaient eux-mêmes existé, ou plutôt excité. Je répète donc la phrase, il m'apparaissait maintenant que ces esprits qui avaient hypocritement offert leur aide aux chrétiens persécutés avaient eux-mêmes excité des ecclésiastiques idolâtres pour mieux les persécuter. Je compris en outre que les serviteurs de ce grand potentat des ténèbres avaient abondamment semé l'erreur et la discorde dans les autres églises de la chrétienté et que celles-ci avaient progressé dans l'erreur et dans l'éloignement de Dieu, qu'ils avaient eu le pouvoir de détourner l'attention et d'étouffer les perceptions des hommes qui autrement arrêteraient les progrès du mal. Les esprits parlèrent alors avec triomphe sardonique de leur école de philosophie matérialiste et de leur enseignement sur la cosmogonie comme combattant celui du livre de la Genèse, système que la science moderne a trouvé si acceptable parce qu'il paraît cadré avec ce que les entrailles de la terre ont révélé, mais qui exclut de ses pensées l'opération de la main de Dieu dans le jugement à la chute de l'homme, au moment où l'homme était non seulement ruiné moralement et physiquement, mais où ce qui avait une fois été déclaré très bon tomba alors avec le premier homme, afin que la création entière, matérielle et immatérielle, gémit pour la délivrance. Un esprit donc s'appelait lui-même Lord Beaconsfield et déclara qu'il m'aiderait en me dictant un ouvrage d'imagination qui surpasserait tous ses efforts terrestres et me rapporterait une véritable fortune, et que j'obtiendrais ainsi la réputation d'être un très grand génie en agissant simplement comme son secrétaire. Et il ajoutait la tentation la plus fascinante pour moi que les esprits pourraient et voudraient me conférer une telle connaissance et un tel pouvoir que je serais moi-même considéré par le monde comme un brillant écrivain et que je gagnerais la renommée et la fortune. Cette offre a été faite et elle a été acceptée par certains de nos écrivains présents d'imagination brillante et pernicieuse, spécialement ceux qui ont popularisé et revêtu Satan lui-même de dignité. Et je sais que certains d'entre eux sont des étudiants de l'occultisme. Un esprit proclama être l'inventeur de systèmes tels que la théosophie et l'agnosticisme. Ils avaient précédemment déclaré que la lecture de la pensée était sous leur domination et effectuée par eux. Je conclus de façon générale, quoique ce ne fût pas exprimé très clairement, que le mesmérisme et l'hypnotisme étaient également des moyens dans leurs mains. Et alors, comme une autre confirmation de l'ascendance que les esprits avaient encore sur moi, ils accomplirent leurs menaces antérieures en parlant des démons blasphémateurs pour me rendre totalement fou. Sur leur invitation, ces esprits sont venus et ont proféré d'horribles blasphèmes jusqu'à ce qu'il semblât que tout l'enfer était lâché sur moi durant un petit moment. Les esprits employèrent alors un dernier expédient terrible pour me vaincre et y réussirent presque. Au milieu de toutes ces difficultés et dangers par lesquels j'étais bien prêt d'être submergé, voilà qu'une voix impérieuse d'un esprit invisible m'appela, prononça ces paroles qui voulaient dire que j'étais devenu si entouré et si assiégé de mauvais esprits qu'il n'y avait aucune délivrance pour moi sur la terre et que lui, un ange de l'Éternel, était descendu du ciel pour m'apporter cet ordre du Seigneur Jésus-Christ, que je devais mourir par ma propre main, donc me tuer moi-même, me suicider, pour échapper à mes persécuteurs, et que mon âme trouverait alors le repos dans le ciel. J'avais un désir de vivre si puissant que rien moins qu'un ordre divin, comme je le croyais, n'aurait pu me décider à me retrancher de la vie. Je ne discutais donc pas les paroles venant évidemment d'un aussi ou d'une aussi haute autorité. Je ne pouvais concevoir qu'il fût possible que les esprits ordonnent aux mortels de mourir en employant le nom sacré de Jésus-Christ. Mais c'était cependant le plan de Satan et j'y suis presque tombé. J'étais parfaitement calme d'esprit et je décidais que j'obéirais à l'ordre divin et me confiais dans le Seigneur. Alors dans la dernière prière que je croyais exprimer sur la terre, je déclarais au Tout-Puissant que je prenais ma vie en croyant que j'agissais à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ. Or sur ce, je bus une potion empoisonnée et je tombai rapidement dans un état comateux, mais je ne me réveillai pas en enfer ou dans le ciel, car il me fut permis de guérir, quoique après beaucoup de difficultés et de souffrances. Et une nouvelle fois, les esprits furent déjoués dans leur intention, et le bruit de ma chute amena immédiatement de l'assistance, et je revins à moi, car j'avais à nouveau essayé de me suicider. Ma guérison fut, je peux presque le dire, un véritable miracle. Je suis convaincu totalement que Dieu, d'une façon très remarquable, interposa sa main guérissante afin que je puisse trouver physiquement la guérison. Mais au-dessus de tout, je fus enfin délivré de la présence torturante et de la persécution de ces démons. Et Christ, qui lui guérit ceux qui étaient possédés de démons quand il était sur la terre, et c'est lui qui guérit tous ceux qui étaient opprimés et opprimé par le malin, et ma guérison dans sa miséricorde. Il leur ordonna donc aux démons de me laisser tranquille, et je reconnus le besoin suprême d'un rédempteur, et je crus à sa sainte parole que nul homme ne vient au Père que par moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je sus là que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, le seul offert parfaitement sur la croix, par lequel Christ a rendu parfait son peuple croyant. Je supplie donc tous ceux qui me disent de fuir le spiritualisme. Ne jouez pas, s'il vous plaît, avec des instruments tels que la planchette, les lecteurs de pensée, les Ouija boards, etc. Je sens que ma vie a été préservée afin que je puisse employer mon expérience et ma connaissance personnelle du pouvoir satanique que j'avais traversé et témoigner maintenant contre les pièges du spiritualisme et de déclarer sa nature satanique et la puissance de Christ comme étant l'unique libérateur de tout cela. Ceci montre donc quelque peu l'ingéniosité et la versalité des démons. À certains, au contraire, ils déclarent qu'il n'y a pas d'enfer. Voilà donc le malin, comme il veut nous faire croire que le mal n'existe pas. Pour obtenir la vue biblique sur la mort, nous avons besoin de balayer les babillages aussi insensés et de nous en tenir au langage de la Sainte Bible et à la pensée raisonnable qui y est attachée. Par exemple, selon la Sainte Bible, il n'y a pas de mort naturelle. Il n'est pas naturel pour l'homme de mourir. Conformément à l'arrangement de la Sainte Bible et la nature de l'homme, ce dernier devrait, aussi bien que les anges, vivre éternellement s'il est obéissant au commandement divin. La mort, par conséquent, est une chose contre nature. Pensons-nous que les anges meurent et que les cieux sont remplis de cimetières? Ont-ils là leurs docteurs et leurs entrepreneurs de pompes funèbres? Sûrement pas. Il serait cependant aussi convenable de parler de mort naturelle parmi les anges qu'au sujet des humains. Mais ni l'un ni l'autre n'est convenable. Le terme « mort spirituelle » employé si fréquemment au sujet d'Adam et de sa chute est totalement contraire à, on peut dire, aux Saintes Écritures. Voyez-vous, c'est contre nature tout cela. Donc, le terme « mort spirituelle » employé, je le répète, si fréquemment au sujet d'Adam et de sa chute, est totalement contraire aux Écritures saintes. On ne peut trouver ni une telle expression, ni une telle pensée dans toute la Bible. Adam ne pouvait mourir d'une mort spirituelle parce qu'il n'était pas un être spirituel seulement. Il était un être terrestre, non un ange, mais un homme. Comme les Saintes Écritures le déclarent d'Adam, tu l'as fait un peu moindre que les anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains, sur les bêtes des champs, les poissons de la mer et les oiseaux des cieux. Hébreux, chapitre 2, verset 7, Psaume, chapitre 8, verset 5 à 8. À partir du moment de la désobéissance et de la condamnation divine, Adam et sa race ont été morts judiciairement et sont graduellement descendus dans la dégradation et évidemment également dans la tombe. En parlant de la race mourante du point de vue judiciaire, notre Sauveur l'appela celle des morts. Il déclara qu'aucun n'a même une vie supposée telle, excepté ceux qui par la foi l'acceptent comme leur donateur de vie, comme étant leur sauveur. Les paroles sont que celui qui a le Fils a la vie, que celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie. Pourtant, à quelqu'un qui croyait en lui, en le Sauveur, il dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, va et prêche l'Évangile. » Saint Matthieu, chapitre 8, verset 22. Du vrai point de vue apparaît à l'évidence ce qu'il entend par là. Laisse donc les morts, le monde condamné et mort légalement, vaquer à ses propres affaires, c'est ce qui sera important. Vous devenez un de mes disciples et vous portez mon message de vie et d'amour à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Examinons maintenant à la lumière de ce qui précède la signification des paroles de l'apôtre Pierre dans la première épître, chapitre 4, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 6. Nous comprenons comment le message de l'Évangile a été prêché du début jusqu'à la fin à un monde mort, à un monde sous la condamnation à mort, à un monde mort dans les fautes et dans les péchés et indigne de l'intérêt divin. Jésus-Christ, durant son ministère, prêcha l'Évangile parmi ceux qui étaient morts judiciairement par leurs fautes et par leurs péchés. Peu nombreux sont donc ceux qui eurent une oreille attentive pour entendre et pour accepter le bon message, donner leur cœur à Dieu et accepter les termes de la condition de disciple, marcher fidèlement jusqu'à la mort dans les traces du Maître sur le chemin étroit, offrant volontairement en sacrifice leur petit tout dans le service de Dieu, de sa vérité ainsi que de sa justice, de son peuple. Et comme nous l'avons vu, notre Seigneur reconnut ce petit nombre comme ayant la vie et comme étant passé de la mort à la vie. Chers amis, avant de terminer, chers auditeurs, je dois vous avouer humblement que sur certains passages pas toujours facile à comprendre. Je peux me trouver dans une situation où il peut m'arriver de me tromper sur certains points, car, voyez-vous, je dois reconnaître que je n'ai pas la réponse à tout. Par contre, il est un fait que avant la venue de Jésus-Christ, les humains n'avaient pas la même possibilité d'entendre l'évangile du salut, et ceci est donc la raison que le Seigneur est allé pour prêcher la repentance pour le salut à ceux qui sont morts avant la dispensation de la grâce. Donc, avant Noé, il y a eu également des anges déchus qui ont pris, si on se rappelle, les filles des hommes pour femmes, car ils les ont trouvées belles. Et nous sommes informés particulièrement que les descendants de cette union inconvenante entre les anges et les filles des hommes furent, et ça a donné des géants, supérieurs physiquement et mentalement à la famille humaine déchue des hommes donc, et c'était ce qu'on appelle des hommes de renom. Et cette affirmation qu'ils étaient des hommes de renom a eu lieu au moment où l'état de l'homme fait était atteint à une centaine d'années. Donc, ils ont pu devenir beaucoup plus âgés, et cela a impliqué que Dieu n'intervint pas pour entraver ou pour arrêter les progrès du péché durant plusieurs siècles peut-être. Et dans l'intervalle, la race avait atteint un tel degré de corruption qu'apparemment seul Noé et sa famille n'étaient pas contaminés. Alors, tous les autres étaient plus ou moins venus sous l'influence directement ou indirectement de ces anges déchus ou de leurs fils géants. Et c'est pourquoi il est écrit de Noé, non qu'il était un homme parfait, mais maintenant Noé était parfait parmi ceux de sa génération, non contaminés. Et sa famille était apparemment de même. En conséquence, ceux-là seulement ont pu être sauvés dans l'arche, tandis que tout le reste, plus ou moins contaminé, fut totalement détruit par le déluge. Ce fut sur le champ que Dieu emprisonna donc ces esprits qui étaient les anges, qui ne conservaient pas leurs premiers états et sont donc pour cette raison appelés des anges déchus, des diables et des démons. Ils ne furent pas emprisonnés dans quelque monde lointain appelé enfer, ni engagés dans l'entretien des feux pour la torture de la pauvre humanité. En suivant la direction des Saintes Écritures, nous trouvons que lorsque le déluge est venu, ils ne furent pas détruits, car alors que leur corps charnel qu'ils occupaient pouvait réellement périr, ils se seraient alors simplement dématérialisés ou auraient alors revêtu à nouveau leurs conditions spirituelles. Le récit est que Dieu les chassa, qu'il les condamna à une ruine afin qu'ils ne puissent plus du tout désormais s'associer avec les saints anges, mais qu'il soit réservé dans le Tartare. Ils furent donc emprisonnés, non dans un lieu spécial, mais dans le sens d'avoir leur liberté restreinte dans les chaînes des ténèbres. Il ne leur fut plus permis désormais de se matérialiser et de s'associer ainsi avec l'humanité. Ces choses nous sont distinctement enseignées par Jude et par Pierre. Jude, verset 6, et deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Explication en pleine harmonie avec le récit de la Genèse concernant leur chute. Nous, naturellement, ne pouvons savoir si tous ces anges déchus sont encore dans une condition de cœur déloyal. Au contraire, en harmonie avec notre texte, nous pouvons supposer que certains de ces anges déchus se sont peut-être depuis repentis de leur mauvaise conduite, hein, je l'espère pour eux, de se repentir, et cela aurait certainement des expériences terribles comme résultat. Être obligé de se trouver en contact étroit et en relation avec les plus mauvais et les plus méchants, et avoir connaissance de tous leurs mauvais desseins et leurs mauvais efforts, serait une expérience terrible, et en outre, nous pouvons être sûrs que les rebelles n'hésiteraient pas à persécuter les repentants de toute façon qui se puissent concevoir, étant donné qu'ils seraient sans loi, sans attacher d'importance à la volonté divine. Je ne sais pas s'il faudrait que je répète ce passage, parce que c'est quand même important de comprendre, et je répète que je ne sais pas tout, et je peux éventuellement me tromper. Nous, je répète, ne pouvons savoir si tous ces anges déchus sont encore dans une condition de cœur déloyal. Au contraire, en harmonie avec notre texte, nous pouvons supposer que certains de ces anges déchus se sont depuis repentis de leur terrible mauvaise conduite, et ce ne serait en rien une manière trop forte d'exprimer le sujet en disant que chacun de ces repentants aurait certainement des expériences terribles comme résultat. Car être obligé de se trouver en contact étroit et en relation avec les plus mauvais, encore beaucoup plus mauvais, et les plus méchants, et avoir connaissance de tous leurs mauvais desseins et efforts, serait donc une expérience pas à souhaiter pour personne. Et en outre, nous pouvons être sûrs que les rebelles n'hésiteraient pas à persuader et à persécuter surtout ceux qui se sont repentis de toute façon, qui se puissent concevoir, étant donné qu'ils seraient sans loi et pourraient donc les torturer en quelque sorte. Je ne sais pas comment ça se passe, on peut seulement supposer. C'est pour ça que je répète, je peux me tromper. D'un autre côté, les repentants seraient donc obligés de se contenter et de se contenir. Pourquoi ? Pour ne pas rendre le mal pour le mal, sachant que ceci serait absolument contraire à la volonté divine. Donc, c'est encore un problème qui est difficile à comprendre. Et quand ils furent emprisonnés ou retranchés du privilège de matérialisation, beaucoup des esprits déchus, nous n'en connaissons pas la proportion, continuèrent leur opposition active envers Dieu, d'après la manière de Satan. En conséquence, il est parlé d'eux comme étant des anges, des messagers, des serviteurs, et il est dit de lui qu'il est Belzébuth, qu'il est le prince des démons. Alors les Écritures nous apprennent que Satan, qui prêcha bien avant les autres que c'était une mauvaise prédication, puisqu'il est menteur et le père des du mensonge, c'est lui qui a péché avant tous les autres, et cela de façon terrible. C'était un ange d'un rang très très élevé, ou d'une nature beaucoup plus élevée, et sa supériorité a fait de lui le prince ou le gouverneur sur les armées d'esprits déchus. Alors le combat de Satan et de ses anges déchus, il a lieu contre Dieu, oui, contre tous ceux qui sont en harmonie avec lui, avec Dieu, contre toutes les règles de la justice et contre tous les canaux et serviteurs que le Seigneur peut employer. Les paroles de saint Paul à ce sujet sont pleines de force. Il remarque que le peuple de Dieu lutte non seulement avec la chair et le sang, mais aussi avec les mauvais esprits dans les hauts lieux. Et la question s'élève donc, qui est capable de ces choses-là? La réponse est que personne n'est assez capable, car sans l'aide du Rédempteur, son Église serait entièrement défaite, elle serait vaincue par le mal. De même, sans l'aide du Rédempteur, par l'intermédiaire de son royaume, sans le liement de Satan, sans la délivrance du monde, car Satan est lié, il sera lié par notre Seigneur de l'esclavage du péché et de la mort, il n'y aurait donc aucun espoir pour le monde d'être libéré de son esclavage présent. Mais nous écrions donc fortement et avec raison et avec tout l'espoir, avec notre apôtre, que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Donc, voyez-vous, un autre désir de ces anges est d'obséder ou de prendre possession d'un être humain, étant enchaîné ou restreint dans le privilège de la matérialisation, la chose suivante la plus désirable dans leur évaluation est d'obtenir le contrôle sur un être humain et d'employer ainsi son corps au lieu du leur. Et ceci est appelé étant possédé ou obsession. Et les personnes qui en sont affligées aujourd'hui sont envoyées souvent dans un asile d'aliénés où, estime-t-on, elles constituent au moins la moitié du nombre total. Au temps de notre Seigneur, on ne supposait pas erronément qu'ils étaient simplement fous, mais ils étaient à juste titre déclarés être des obsédés. Tous se souviennent que le Nouveau Testament raconte que notre Sauveur et ses apôtres chassaient les esprits déchus de l'humanité. Nous n'avons pas besoin de discuter sur ce sujet avec des étudiants de la Bible, car il est trop bien connu pour être contesté. Nous conseillons une étude topique de ce sujet par tous nos auditeurs, et voyez combien de fois, combien de fois Jésus-Christ et les apôtres ont chassé les démons. Et notez-en les détails. Quoique nous avions encore avec nous des esprits médiums et beaucoup d'obsédés, nous ne pouvons savoir si le nombre proportionnel est plus grand ou moindre que dans les jours de notre Seigneur. Car puisque la population du monde d'aujourd'hui est beaucoup plus grande, le même nombre d'esprits mauvais qui ne s'accroît pas se montrerait donc proportionnellement aujourd'hui moindre. Mais, quel qu'il puisse être, nous pouvons supposer que certains fruits sont résultés des grands sermons qui leur furent prêchés, touchant la mort et la résurrection de notre Seigneur, auquel Saint Pierre fait allusion dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 et 19. De plus, Saint Paul remarque : ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges ? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Nous savons que les saints anges n'ont pas besoin de jugement ni d'épreuve. Par conséquent, l'apôtre doit faire allusion, me semble-t-il, de quelque façon à une épreuve ou à un jugement de ces esprits en prison qui furent autrefois désobéissants dans les jours de Noé. Ce fut donc une grande leçon de choses à laquelle assistèrent les anges déchus. Elle constitua pour eux le grand sermon qui leur donna une base d'espérance. À plusieurs occasions, les esprits déchus, quand il leur était ordonné de sortir des êtres humains, déclarèrent qu'ils connaissaient Jésus-Christ. Ils l'avaient donc connu il y a bien, bien longtemps, alors que, comme l'unique engendré du Père et comme son représentant, il les avait créés ainsi que toutes les choses qui existent et qu'il était également le porte-parole pour tous les ordres et pour tous les règlements divins. Il discernait qu'il était venu dans le monde pour être son rédempteur. Il comprenait la grandeur de la soumission qu'il avait montrée en passant de sa noble position sur le plan céleste à la position de serviteur sur le plan humain. Ils admiraient sa loyauté et sa fidélité à Dieu, mais ils avaient cru, sans doute, qu'il était fou. Ils ne s'attendaient jamais à le voir ressuscité d'entre les morts. Mais quand ils ont compris sa résurrection le troisième jour, à la gloire, à l'honneur et à l'immortalité, bien au-dessus des anges, bien au-dessus des principautés et des puissances et de tout nom qui peut être nommé, alors son serment pour eux fut complet, à savoir que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Cette leçon est valable pour tous, la puissance de Dieu et les infinis, ainsi que son amour, sa miséricorde, sa bonté. Néanmoins, chaque péché volontaire aura sa punition, une juste rétribution, et seuls les soumis et les obéissants auront la faveur divine et la vie éternelle. Que chacun donc s'applique personnellement à la leçon. Chers amis, nous allons terminer par la prière et j'espère de tout mon cœur que pour mieux comprendre cette étude, vous puissiez la réécouter au moins une deuxième fois. Et je répète, je suis qu'un être humain limité et faillible, et il se peut que sur certains points, je puisse me tromper, involontairement évidemment, car je prie toujours que l'Esprit Saint me dirige et m'inspire. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas infaillibles. Prions. Éternel, tu as fait le ciel et la terre. Tu l'as fait par ta grande puissance. Aucune chose ne t'est difficile, car c'est toi qui fais miséricorde en 1000 générations. Tu es le Dieu fort, le grand, le puissant, grand en conseil, en puissance, en exploit, car tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon sa conduite. Ton peuple t'a abandonné. Nous t'avons abandonné, toi qui es la source des eaux vives, pour nous creuser des citernes qui ne peuvent contenir les eaux. Éternel, convertis-nous et nous serons convertis, nous serons sauvés. Certainement, a dit l'Éternel, j'aurai pitié de vous. Mes entrailles sont émues, je vous ai aimé d'un amour éternel. Je suis avec vous pour vous délivrer. Cependant, je ne vous tiendrai point pour innocent, mais je vous ferai revenir par ma miséricorde. Je vous conduirai par un droit chemin auquel vous ne broncherez point, et je vous garderai comme un berger garde son troupeau. Je vous donnerai un cœur pour connaître que je suis l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous reviendrez à moi de tout votre cœur. Il y a de l'espérance pour vos derniers jours, a dit l'Éternel. Les pensées que j'ai de vous sont des pensées de paix. Alors vous me prierez, vous m'invoquerez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car je me ferai trouver à vous. Célébrons donc l'Éternel, car l'Éternel est bon et sa miséricorde demeure à toujours. Amen. Et chers auditeurs, priez maintenant avec vos mots à vous, simplement le Notre Père qui est aux cieux. Priez cela et vous serez bénis, car Dieu et son Fils bien-aimé Jésus-Christ vous aiment. Alléluia. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu en sachant que nous sommes aimés. À bientôt à nouveau pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers auditeurs.